Il est 22h, ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de cette édition, l'état d'urgence désormais décrété dans les camps de Moria en Grèce, le camp de réfugiés ravagé par un incendie cette semaine et des milliers de personnes sont sans abri depuis 4 jours.
Et puis un accord de normalisation entre Israël et Bahreïn, synonyme de feu vert pour des relations diplomatiques, le président américain applaudit, on y revient dans un instant.
Également dans l'actualité en France, la rentrée en ordre dispersé des gilets jaunes, des manifestations peu suivies aujourd'hui après une parenthèse due au Covid.
Le journal en français facile.
En français facile.
Et d'abord, la situation sur l'île de Lesbos en Grèce après le double incendie cette semaine dans un camp de réfugiés.
Et le camp de demandeurs d'asile de Moria où l'état d'urgence est désormais déclaré. L'immense majorité des presque 13 000 personnes qui y étaient hébergées vivent aujourd'hui à la rue. Les autorités installent à présent un nouveau camp de tente d'une capacité provisoire de 3 000 places. Mais de nombreux demandeurs d'asile protestent à l'idée de se retrouver enfermés dans un nouveau camp. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir quitter l'île. Sur place, le reportage de Joël Brunner.
Sur le bord de la route qui mène de Mytilène, la capitale de Lesbos, à l'ancien camp calciné de Moria, ils sont des milliers de demandeurs d'asile éparpillés absolument partout. Régulièrement, des manifestations de colère de plusieurs dizaines de personnes démarrent, avant de souvent s'achever dans la fumée des gaz lacrymogènes. Masque sur le visage, un jeune Afghan est assis au bord de la route. Il a les yeux fixés de l'autre côté d'un grillage sur les dizaines de nouvelles tentes qui viennent d'être installées par les autorités grecques. Cela fait plus d'un an qu'il vivait à Moria.
Je m'appelle Sadek. Je suis arrivé ici le 11 juillet 2019. J'ai 24 ans. Maintenant, je dors à la rue, près du supermarché Lidl, un peu plus loin. Je ne veux pas aller dans ce nouveau camp. C'est encore moins bien que le camp de Moria. Il y avait des tas de problèmes à Moria. Mais ici, il n'y a rien du tout à part des tentes. Je ne sais pas quoi attendre. Je suis complètement perdu pour l'instant.
Au bord de la route, nombreux sont les réfugiés qui expriment leur opposition à un retour dans un nouveau camp. Leur espoir, c'est la liberté, comme ils disent, loin de l'île de Lesbos. Joël Brunner, Lesbos RFI.
Et ça se passe également en Grèce. Le pays va lancer un important programme d'achat d'armes.
Et avec notamment l'acquisition de 18 chasseurs de fabrication française Rafale, ainsi que des frégates et des hélicoptères. C'est ce que précise le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui prévoit aussi de recruter 15 000 soldats supplémentaires et de financer davantage son industrie de défense. Des annonces qui interviennent alors que la tension continue de monter avec le voisin turc en Méditerranée orientale. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer pour le contrôle de zones riches en hydrocarbures.
Et puis au Mali, la charte de transition présentée ce soir à Bamako à l'issue de 3 jours de discussion.
Et le texte fixe la durée de la transition à 18 mois et charge un comité formé par les militaires de désigner un président pour diriger cette transition. Le rapporteur de la réunion désigné par la junte, donc par les militaires, assure que le document est adopté de fait par acclamation, mais d'ores et déjà, les représentants du M5, le mouvement qui a mené pendant des mois la contestation contre l'ancien président malien, contestent le procédé.
Un mois après l'accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, une autre monarchie du Golfe normalise ses relations avec l'État hébreu. Il s'agit du petit royaume de Bahreïn.
C'est le président américain qui a annoncé hier cette nouvelle qu'il qualifie lui-même d'historique. Donald Trump fait d'ailleurs pression sur les autres pays du Golfe afin d'obtenir une normalisation de leurs relations. Mais cela risque d'être très compliqué avec l'Arabie Saoudite, estime Fatia Dadzieni. Elle est spécialiste de la région. Écoutez ses explications.
La population bahreïnie est l'une des plus politisées de la région, ce qui n'est pas du tout le cas aux Émirats arabes unis. Et en plus de ça, Bahreïn a une tradition de culture politique très ancrée et très forte. Et d'ailleurs, il y a déjà 23 associations politiques qui ont signé une pétition pour s'opposer à cette normalisation. Donc cette question palestinienne, elle est dans les cœurs des populations encore très très forte, et c'est ce qui me fait dire que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite pourrait être le prochain État. La connaissance que j'ai de ce pays, de cette société, n'est absolument pas prête et ouverte à ce type de rapprochement.
Fatia Dazi Henni, chercheuse spécialiste du Golfe et du Moyen-Orient, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Elle était contactée par Sami Bourlifa.
Le journal en français facile.
Il est 16h06 à Washington. La BID, la Banque Inter-Américaine, je vais y arriver, de développement, doit désigner ce week-end son nouveau président.
Et depuis sa création dans les années 50, la plus importante banque régionale de développement au monde a toujours été dirigée par un latino-américain. Mais à la surprise générale, Donald Trump a décidé au début de l'été de rompre cette habitude sans prévenir personne. Le président américain envoie son propre candidat dans la course à la présidence de la BID. Et non des moindres, il s'agit de Mauricio Claver Caron, l'un de ses proches. Une option qui est loin de faire l'unanimité au sein de l'institution. Stéphanie Schuller.
Ce week-end, les 48 représentants des pays actionnaires de la BID n'auront pas le choix entre plusieurs noms. Pour occuper le poste de président de cette importante institution multilatérale, il n'y a qu'un seul candidat en lice, Mauricio Claver Caron. Ce cubano-américain est depuis 4 ans l'architecte de la politique de Donald Trump en Amérique latine. Il est à l'origine de la position dure de Washington vis-à-vis de Cuba et du Venezuela, et ces dernières semaines, il n'a pas hésité à s'en prendre violemment aux dirigeants latino-américains qui se sont opposés à son arrivée à la tête de la BID. Au sein des pays latino-américains, mais aussi en Europe, les craintes sont en effet grandes. Mauricio Claver Caron a d'ores et déjà annoncé que la lutte contre le réchauffement climatique ou encore celle pour l'égalité homme-femme ne feront pas partie de ses priorités. La principale mission de ce proche de Donald Trump sera tout autre, à savoir contrer l'influence grandissante de la Chine en Amérique latine, dont elle est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux. Pour empêcher l'ascension du premier Américain à la tête de la BID, plusieurs pays membres pourraient faire le choix de ne pas participer au conseil d'administration ce week-end. Il faut en effet un quorum de 2/3 des votants pour procéder au vote.
Voilà pour les explications signées Stéphanie Schuller à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h08 à Paris, à la une en France, le retour dans les rues des Gilets jaunes.
Un retour timide après des mois de pause forcée, contexte sanitaire oblige. À plusieurs manifestations étaient organisées dans les principales villes de l'Hexagone, en tête desquelles Paris, où plusieurs cortèges défilaient simultanément par petits groupes, loin des rassemblements des débuts du mouvement, même si les participants affichent une motivation intacte, à l'image d'Amina, gilet jaune, qui s'exprime au micro RFI de Lucie Bouteloup.
Nous étions plusieurs milliers ce matin à Place Wagram. Après, il y a eu des casseurs qui se sont joints. Et ça a fait disperser les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas être gazés, qui avaient peur de la police. Donc ça a fait éclater la manifestation. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à fédérer tous ensemble d'un coup pour en faire qu'une seule, pour être encore plus visible. Mais on est toujours là, il y a toujours des gilets jaunes.
Et les revendications sont les mêmes alors ?
Exactement les mêmes. C'est le RIC, la dissolution de l'Assemblée nationale et puis le pouvoir d'achat tout simplement pour les citoyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. À la fin du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Et là maintenant, on vient s'ajouter les problèmes du coronavirus qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau parce qu'ils ne vont pas reprendre le travail. Il y a des commerçants qui sont en train de fermer parce qu'ils n'ont pas de clients et parce qu'on ne les autorise pas à recevoir du public normalement. Donc on a toutes les raisons de vouloir sortir de la rue et protester et réclamer. Non, on ne va rien lâcher.
Le témoignage d'Amina, gilet jaune, recueilli à Paris donc cet après-midi par Lucie Bouteloup. En bref, lui n'a pas de gilet mais un maillot jaune. Le Slovène Primoz Roglic conserve la tête du classement du Tour de France à l'issue de la 14e étape remportée par le Danois Søren Krag Andersen.
Et puis lui était assis il y a une semaine dans la même voiture que le directeur du Tour. Jean Castex sort ce soir de l'isolement.
Le premier Le ministre est négatif au Covid-19 après un second dépistage réalisé aujourd'hui. Il était considéré comme cas contact de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, lui-même testé positif.